France Inter, il est 13h, passé de 34 secondes. L'heure de votre journal, Frédéric Barrère.
Bonjour à tous. Le Royaume-Uni veut durcir son système d'asile. 5 ans après le démantèlement de la jungle de Calais, le gouvernement de Boris Johnson prépare un projet de loi pour criminaliser les traversées de la Manche. Entre 1 000 et 1 500 migrants sont toujours aujourd'hui à Calais, livrés à eux-mêmes, dénoncent des associations. La mort de Marcel Bluval, le réalisateur de l'âge d'or de la télévision et metteur en scène de théâtre, avait 96 ans. La gauche et la question du candidat unique pour la présidentielle. L'écologiste Sandrine Rousseau déclare ce matin qu'il va falloir unir nos forces à un moment. Et à 6 mois de la présidentielle, on s'intéressera à un événement dans le monde de la presse et des médias et dans le groupe Lagardère, le changement de directeur à Paris Match et au journal du dimanche. Invité de ce journal, Alexis Lévrier, spécialiste de l'histoire de la presse. Dans ce journal également, le président turc Erdogan qui semble déterminé à aller au bout de sa menace d'expulser 10 ambassadeurs. Et puis en sport, le Grand Prix moto d'Émilie-Romagne, Fabio Quartararo peut devenir aujourd'hui le premier pilote français champion du monde. La météo ensoleillée, sauf en Bretagne. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Et on va d'abord s'intéresser à la situation à Calais qui reste compliquée 5 ans après le démantèlement de la jungle. Ce vaste camp de migrants au nord de la France évacué et détruit en octobre 2016. 5 ans après, la plupart des migrants de Calais sont loin, partis pour certains en Grande-Bretagne ou ailleurs en France. Mais d'autres sont restés à Calais, entre 1 000 et 1 500 personnes. Et certaines associations dénoncent une situation inhumaine pour les réfugiés qui vivent à Calais. Pour Claire Millot de l'association Salam qui vient en aide aux migrants à Calais et à Grande-Synthe, ces personnes sont abandonnées.
Actuellement, il reste des tentes et des bâches qui sont démantelées systématiquement un jour sur deux. Sur le site à côté de l'hôpital, actuellement, c'est tous les jours. C'est terrible parce que le matériel est ramassé. Il n'y a plus rien. Dans la grande jungle, c'était même pas une jungle, en fait. C'était un bidonville. Il y avait des abris construits avec des palettes, des morceaux de bois, et les gens pouvaient se tenir debout dedans. Ils arrivaient à se bricoler des systèmes de chauffage. Ils récupéraient des vieux meubles. C'était un bidonville. Là, actuellement, c'est pas un bidonville, c'est vraiment une jungle et même pas complète. C'est-à-dire qu'il y a un tas de gens qui dorment même pas avec une tente, même pas avec une bâche. Nous, les associations, nous n'avons plus assez de matériel à distribuer. Donc, il y a plein de gens qui dorment dehors sans rien.
Claire Millot de l'association Salam. Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains de la 7e circonscription du Pas-de-Calais, rejette les propos des associations. La situation reste dramatique, dit-il, à certains égards, mais elle n'est pas pire qu'il y a 5 ans.
J'invite les associations à quand même mesurer ce qu'elles disent. Il y a 5 ans, la jungle de Calais, c'était le plus grand bidonville d'Europe. Il y avait chaque nuit des affrontements de plusieurs centaines de migrants avec les CRS. Il y avait du caillassage de camionneurs et de camions sur la rocade avec des barrages type Far West. Il y avait des morts quasiment toutes les semaines. Aujourd'hui, la situation n'a rien à voir. Elle reste compliquée, dramatique à certains égards, mais elle n'est pas pire qu'il y a 5 ans. La seule solution, malheureusement, pour éviter la création de ces nouvelles jungles, c'est de démanteler extrêmement régulièrement les tentes, les abris qui sont créés. Il faut faire en sorte d'éviter de créer ce qu'on appelle un point de fixation en continuant à faire des maraudes, en continuant à expliquer aux migrants qu'il faut déposer des demandes d'asile en France et puis en travaillant avec le Royaume-Uni.
Pierre-Henri Dumont avec Karsine Lebovitch. Et justement, le Royaume-Uni veut durcir son système d'asile. 5 ans après le démantèlement de la jungle de Calais, le nombre de traversées de la Manche a explosé. Et hier, au large de Boulogne-sur-Mer, 39 migrants ont été secourus. Le gouvernement de Boris Johnson prépare donc un projet de loi pour criminaliser les traversées de la Manche. Le texte est en phase d'examen. Sur place à Londres, Laura Calmus.
Des migrants qui arrivent épuisés sur les côtes britanniques, souvent récupérés en pleine mer par les Border Force, la police des frontières. Une situation qui dure depuis des années pour des hommes, des femmes et même des enfants, prêts à risquer leur vie pour demander l'asile en Angleterre. Alors pour la ministre de l'Intérieur britannique, il faut réformer le droit d'asile. Dans son projet de loi extrêmement controversé, elle estime que si un migrant arrive illégalement sur le sol britannique, il risque 4 ans de prison, n'aura pas la possibilité de recevoir d'aide de l'État et ne pourra pas faire venir sa famille. Le Royaume-Uni étudie même la possibilité de refouler les bateaux en pleine mer, impensable pour de nombreuses associations. Cela violerait le droit maritime international et présenterait un énorme danger pour ces migrants. Par ailleurs, en juillet dernier, Londres avait promis près de 60 millions d'euros en aide à la France pour renforcer la présence policière sur les côtes. Pas un centime n'a été payé, selon Gérald Darmanin. Mais les Britanniques assurent que la situation allait être régularisée dans les prochaines semaines. Londres, Laura Calmus, France Inter.
On a appris ce matin la mort de Marcel Bluval, le réalisateur et metteur en scène de théâtre, était âgé de 96 ans. Marcel Bluval était l'un des derniers réalisateurs mythiques de l'âge d'or de la télévision, Mathieu Culeron.
Professeur au Conservatoire d'art dramatique de Paris entre 1975 et 1980, Marcel Bluval se passionne pour le cinéma dès son enfance. Il échappe à la déportation cachée avec sa mère sous l'occupation par son professeur de piano. Après la libération, il fait son entrée à la télévision. Au début des années 50, il adapte pour le petit écran des histoires pour enfants et réalise quelques dramatiques. Par la suite, il adapte Feydeau, Beaumarchais, Molière ou encore Les Misérables de Victor Hugo au début des années 70. Avec l'inspecteur Leclerc, Enquête, il est l'un des premiers à réaliser des séries et c'est à la fin des années 60 qu'il connaît un énorme succès avec Vidocq. Après les téléfilms, Marcel Bluval se tourne vers la variété avec La Boîte à sel, L'École des vedettes ou encore Discorama, puis se tourne vers le théâtre et l'opéra avec les mises en scène des Femmes savantes ou encore de Don Giovanni et Così van tutte de Mozart. Avec plus de 60 adaptations pour la télé, Bluval laisse une trace incomparable dans la production télévisuelle. Marcel Bluval qui déclarait qu'il traitait tous les conflits en espérant que pour le public en sortirait une exaltation révolutionnaire. Marcel Bluval est mort à 96 ans.
Une marche blanche cet après-midi à Mulhouse pour rendre hommage à Dina, 14 ans, qui s'est suicidée en octobre, victime de harcèlement scolaire selon la famille. Une enquête a été ouverte. L'adolescente scolarisée au collège Émile Zola de Kingersheim subissait un harcèlement depuis 2 ans. Son frère Ryan s'est confié à Marie Maheu de France Bleu Alsace.
Elle se faisait harceler depuis la 4e, la 3e. Tout le monde l'a traitée de sale lesbienne, de sale arabe aussi. Elle a fait une première tentative de suicide en mars. De là, elle est revenue au collège. Elle a reçu des lettres qui lui disaient « La deuxième tentative, tu ne te rateras pas. On espère que tu te tueras, tu arriveras à mourir. » Après, il y a eu un petit confinement. Du coup, on n'a pas porté plainte vu qu'elle était restée à la maison. Elle était heureuse d'être à la maison. Et quand les cours ont repris, il n'y a pas un jour où le collège ne nous appelait pas pour venir la chercher. Pour oui, elle a mal au ventre, elle a mal à la tête. Puis elle a quand même fini son année. Elle a eu son brevet, mention très bien. Elle avait hâte de faire sa rentrée au lycée, vu que c'était un nouveau départ pour elle, avec des nouveaux amis. Et malheureusement, un jour, elle a recroisé les filles qui l'a harcelée au collège. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé. On pense que tout lui est remonté. Et là, le 5 octobre, ma mère m'a appelé pour me dire qu'elle s'était suicidée.
Ryan, le frère de Dina, 14 ans. Au chapitre politique, 2 déclarations ce matin à droite. Christian Estrosi, le maire anciennement Les Républicains de Nice, dans une tribune au journal du Dimanche, demande à la droite de combattre de toutes ses forces Éric Zemmour. Zemmour n'est pas de Gaulle, dit-il, c'est à peine sa rature. Et puis dans les mêmes colonnes du JDD, Gérard Larcher, président des Républicains du Sénat, estime que le polémiste Zemmour hystérise le débat, mais n'est pas raciste. À gauche, la préoccupation du moment, c'est l'union face à la multiplication des candidatures. Mais quelle union est derrière qui, après notamment le meeting hier de la candidate socialiste Anne Hidalgo à Lille ce matin? Sandrine Rousseau, finaliste de la primaire écologiste, le reconnaît. Pour gagner, il va falloir s'unir à un moment.
J'ai confiance en Anne Hidalgo. Simplement, la question, c'est comment on renoue avec un récit de conquête sociale, avec un récit de toute cette gauche écologiste et sociale. Aujourd'hui, les défis qui sont face à nous sont des défis, certes sociaux, mais aussi environnementaux, comme nous n'en avons jamais connu et comme aucune génération, j'ai envie de dire, de notre civilisation n'en a connu de cette ampleur. Et donc, il va nous falloir unir nos forces. À un moment, évidemment, l'écologie n'est pas secondaire dans cette affaire-là. Oui. Et oui, derrière qui, tout ça, je vais vous dire, on va voir en marchant. Et c'est pas une question de se retirer, c'est pas une question de domination, c'est pas une question d'humiliation d'une force politique vis-à-vis d'une autre. C'est une question de coopération et de travailler ensemble. Et c'est ça la différence. C'est ça aussi une autre manière de faire de la politique. Il faut que le PS
mais il y aura
aussi
qu'un
comprenne.
Candidat. De la gauche, vous le pensez, vous le...
Et
d'ailleurs,
il n'y
a qu'un seul candidat de la gauche finalement à l'arrivée.
Je l'espère, mais j'espère aussi que ce sera Yannick Jadot.
Sandrine Rousseau avec Jean-Jérôme Bertolucci à 6 mois de l'élection présidentielle. On va s'intéresser maintenant à un événement dans le monde de la presse et des médias et au sein du groupe Lagardère avec le changement de direction dans 2 titres importants et emblématiques de la presse française, Paris Match et le journal du Dimanche, après le départ cette semaine d'Hervé Gattegno. Patrick Mahé prend la direction de Match et Jérôme Bellet celle du JDD. Bonjour Alexis Lévrier.
Bonjour.
Maître de conférence à l'université de Reims, spécialiste de l'histoire de la presse. presse et vous avez publié un livre il y a quelques semaines, Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse, aux éditions Les Petits Matins, Celsa. Patrick Mahé, comme Jérôme Bellé, sont des patrons de presse, des journalistes, de vieux routiers de l'information. Alexis Lévrier, on connaît bien Jérôme Bellé ici, il a créé France Info et participé dans une autre maison au lancement de LCI. Une réaction à leur nomination ?
C'est rassurant, puisque dans un premier temps, les informations qui étaient sorties sur les réseaux sociaux étaient plutôt qu'on aurait notamment à la tête du JDD Tugdual Denis, qui est journaliste à Valeurs Actuelles, et qui serait correspondu à ce qui s'est passé pour Europe 1, où aujourd'hui Louis de Ragnel, ancien de Valeurs Actuelles, dirige le service politique. Donc on pouvait craindre une bolorisation accélérée de ces deux titres. Là, ça semble rassurant, parce que ce sont deux hommes de médias avec une grande expérience et qui ne sont pas connus pour leur radicalité.
Ouais. Alors une bolorisation accélérée, disiez-vous. Là, le paysage médiatique quand même est très marqué.
Ah oui, il y a une droitisation, voire une extrême droitisation des médias. Vincent Bolloré dirige aujourd'hui un groupe qui est présent à la télévision avec Canal, à la radio avec Europe 1 et qui est en train de constituer sans doute le premier groupe de presse écrite en France, ouais. Et avec un projet politique ou au moins un projet culturel assez affirmé. Cela étant, c'est aussi un patron de presse avisé qui cherche à chaque fois à avoir des titres rentables, des chaînes rentables. CNews, ça a été une chaîne low cost avant d'être une chaîne d'extrême droite. Avec Europe 1, il y a des passerelles qui se créent aussi pour des raisons économiques. Et je ne vois pas maltraiter ces deux titres emblématiques, historiques que sont le JDD et Paris Match en allant contre la volonté de la rédaction, mais aussi contre le souhait du lectorat. Ce serait certainement condamner ces deux titres qui sont en bonne forme économique à, sinon la disparition, du moins une érosion de leur vente.
Bon, il reste un patron. Mais dans l'histoire de la presse française, deux blocs comme ça, assez opposés, c'est pas la première fois que ça arrive.
Non, mais il y a une radicalisation à droite. Et l'extrême droitisation, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis la collaboration. Et c'est pas pour rien qu'Éric Zemmour, qui est venu de CNews, qui a construit sa candidature grâce à CNews, est un maurassien revendiqué qui, lui, s'inspire ouvertement de la presse de la Belle Époque jusqu'à la collaboration. Une presse qui était de tradition antisémite et xénophobe. Il en reprend toute la rhétorique, tout l'imaginaire, toute l'imagerie, simplement en appliquant aux musulmans ce qui était réservé aux juifs dans cette presse-là. Mais on n'avait jamais vu, depuis la libération, un groupe de presse défendre une ligne politique aussi affirmée vers l'extrême droite et détenir un groupe de presse aussi influent. C'est très nouveau, mais j'espère que le JDD et Paris Match auront résisté à cette ligne éditoriale.
Alors, un groupe de presse qui défend ces idées-là, est-ce qu'on peut dire que Bolloré et CNews ont créé Éric Zemmour, en tout cas pour cette campagne présidentielle en politique ?
Ils ont créé les conditions de cette candidature, parce qu'Éric Zemmour, c'est un journaliste politique depuis 40 ans, de talent, cultivé, il ne faut pas le nier, qui a eu une exposition déjà dans des médias audiovisuels, chez Laurent Ruquier, sur iTélé, dans 16 disputes, mais à chaque fois, il avait des contradicteurs. Des gens, des journalistes qui jouaient leur rôle et qui pouvaient rectifier ses dires. Ce qui s'est passé dans Face à l'info pendant 2 ans, c'est assez inédit. Il a pu déverser face à des passe-plats. Je crois que Christine Kelly, ancienne membre du CSA, a joué un rôle qui est quand même très grave dans cette histoire. Et personne n'était face à lui pour corriger les innombrables fake news et erreurs historiques qu'il commettait. Et c'est comme ça qu'on a créé les conditions de sa candidature.
Alors, Alexis Lévrier, les politiques regardent toujours quand même de très près ce qui se passe dans les rédactions, les journaux, et à la tête des rédactions et des journaux. Bon, on l'a vu récemment avec Emmanuel Macron, c'est totalement le sujet de votre livre dont je parlais à l'instant. Par exemple, le président français, il n'est pas le seul, hein, s'est rapproché de médias qui sont pourtant, semble-t-il, éloignés de ses propres idées.
Oui, c'est ce que j'ai voulu traiter dans ce livre. C'est un président un peu mitterrandien de ce point de vue-là, et Jupiter, ça renvoie d'ailleurs à la période Mitterrand, puisque c'était Jacques Pilan qui avait théorisé la notion de présidence jupitérienne. François Mitterrand avait joué avec l'extrême droite. Il avait été jusqu'à écrire à des patrons de chaînes à l'époque pour leur dire de faire plus de place à Jean-Marie Le Pen. Et de la même manière, Emmanuel Macron a essayé, par goût de la transgression, de la provocation, de la triangulation, d'aller du côté de ces médias-là. Il a eu des liens très rapides avec Valeurs Actuelles, avec même l'équipe de Pascal Praud, par le biais de Bruno Roger Petit, qui est son conseiller mémoire. Mais comme le dit Ariane Chemin, c'est aussi son conseiller triangulation. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans cette direction-là. Aujourd'hui, peut-être qu'il s'en mord les doigts parce qu'on a désormais un camp de l'extrême droite qui est très fort, mais qui est aussi divisé. Et du coup, les jeux sont très ouverts pour la présence au deuxième tour. Donc la triangulation visait sans doute à assurer un débat face à Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Là, on se retrouve avec un second tour très incertain et ça n'était sans doute pas prévu à l'Élysée. il nous reste très peu de secondes, Alexis Lévrier, le risque, le danger, le dérapage, c'est quoi? C'est que l'opinion dans les médias dépasse l'information, prenne le pas sur l'information.
Oui, moi c'est ce qui m'inquiète au-delà de la droitisation, c'est-à-dire le triomphe de médias d'opinion au détriment d'un journalisme d'information. La meilleure réponse, c'est peut-être ce que fait Le Monde en ce moment, avec ses fragments de France. Envoyer 100 journalistes sur le terrain, faire 100 reportages,
100 photographes.
Voilà, et raconter la France telle qu'elle est, et non pas cette vision fantasmée et nostalgique d'Éric Zemmour.
Merci beaucoup, Alexis Lévrier, spécialiste de l'histoire de la presse. Et je rappelle votre livre Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse, aux éditions Les Petits Matins, CELSA. Merci à vous.
Merci.
À l'étranger, en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan affirme avoir donné l'expulsion au plus vite de 10 ambassadeurs, dont ceux de France, d'Allemagne et des États-Unis. Ces diplomates avaient réclamé la libération de l'opposant Osman Kavala, un homme d'affaires et mécène et aussi bête noire du régime. Les 10 ambassadeurs vont être déclarés persona non grata, une mesure rare dans les relations internationales qui ouvre la voie à leur expulsion ou à leur rappel dans leur propre pays. Sur place à Istanbul, Anand Lower.
Pour les journaux pro-Erdogan, dont certains publient en une ce dimanche les photos des 10 ambassadeurs visés par le président turc, la chose est entendue, ils vont être sommés de quitter la Turquie. On voit mal en effet comment Recep Tayyip Erdogan pourrait faire machine arrière, lui qui avait déjà annoncé en début de semaine que les diplomates concernés n'étaient plus les bienvenus. L'agence de presse indépendante Anka, citant des sources diplomatiques, affirme que pendant plusieurs jours, des bureaucrates du ministère des Affaires étrangères sont intervenus auprès de leur ministre pour qu'ils tentent de dissuader le chef de l'État. Ces dernières déclarations suggèrent qu'ils ont échoué. Une telle décision, inédite dans l'histoire diplomatique de la Turquie, aura pourtant des conséquences sur ses relations avec les pays concernés, avec l'Occident en général, mais aussi sur l'économie turque déjà bien mal en point. Selon la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, une fois que les ambassadeurs auront été officiellement déclarés persona non grata, leurs pays respectifs devront les rappeler. Il ne s'agirait donc pas techniquement d'une expulsion, mais en termes d'image, pour la Turquie, cela revient au même. Anand Lower, Istanbul, RFI pour France Inter.
Élection présidentielle aujourd'hui en Ouzbékistan, en Asie centrale et ancienne république soviétique. Un scrutin sans grand suspense et même joué d'avance. Le président sortant, Shavkat Mirziyoyev, devrait être réélu pour un deuxième quinquennat à la tête de ce pays de 34 millions d'habitants. Et après avoir lancé une vague de réformes à son arrivée au pouvoir, le numéro 1 ouzbek semble désormais revenir à des pratiques autoritaires. Christian Chéneau.
L'élan de libéralisation qui soufflait sur l'Ouzbékistan depuis 2016 et la mort du président Islam Karimov est-il en train de s'essouffler? Son successeur, Shavkat Mirziyoyev, avait pourtant lancé des réformes. Après des années de chape de plomb, il avait mis fin au travail forcé dans les champs de coton. Plusieurs opposants torturés sous le précédent régime avaient été libérés. Il avait aussi ouvert l'économie pour attirer de nouveaux investisseurs. Pourtant, aujourd'hui, le pouvoir à Tachkent semble avoir enclenché la marche arrière dans le domaine des libertés et des droits de l'homme. En mars dernier, une loi pénalisant la critique en ligne du président Mirziyoyev est entrée en vigueur. Plus récemment, des opposants se sont vus refuser l'autorisation d'enregistrer leur parti politique par la justice ouzbek. Résultat, Shavkat Mirziyoyev affronte pour ce scrutin présidentiel 4 candidats fantoches qui se sont abstenus de toute critique contre le président pendant la campagne électorale.
Christian, chez nous, et on attend un événement cet après-midi en moto au Grand Prix d'Émilie-Romagne. Tous les regards seront braqués sur Fabio Quartararo. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour Frédéric.
Fabio Quartararo, le pilote français qui peut devenir le premier champion du monde.
Et ce, dans la catégorie reine, la MotoGP la plus médiatique. À 3 Grands Prix de la fin de la saison, un seul adversaire peut en fait encore priver Quartararo du titre mondial, l'Italien Francesco Bagnaia, le Niçois de 22 ans. À une avance confortable de 52 points, mais attention, rien n'est gagné pour le Français. Son sacre pourrait même être retardé hier sous la pluie, des conditions météo qu'il n'aime pas. Quartararo est passé à côté de ses qualifications. Il ne partira tout à l'heure qu'en 15e position, alors que Bagnaia à domicile a lui décroché la pole. Autant dire que le pilote tricolore va devoir cravacher pour grignoter des places et aller chercher ce premier titre de champion du monde pour un Français. Il sera sacré dès aujourd'hui, Frédéric, s'il finit devant l'Italien ou s'il lui concède moins de 3 points. Sinon, il faudra patienter 2 semaines supplémentaires avec le Grand Prix de l'Algarve.
Et on suivra la course avec vous, Fanny Lechevestrier. Merci. L'autre événement aujourd'hui en sport à Marseille, c'est le choc en Ligue 1 de football. OM-PSG dans un stade Vélodrome à guichet fermé. Après la parenthèse Covid, le classique retrouve ses standards habituels, c'est-à-dire survolté. Et après 10 ans sans victoire au Vélodrome, l'OM 3e reçoit donc le leader parisien. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Euromaster. toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Parce que votre activité n'attend pas. Les services en ligne Euromaster sont accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Jean-Michel Golinski.
Du soleil cet après-midi sur la plupart des régions, exception faite de la pointe ouest où une perturbation affaiblie est arrivée par le Finistère. Elle avance lentement. Le ciel plus ou moins maussade va toucher les Pays de la Loire et la Basse-Normandie en fin de journée. Du gris également par intermittence à prévoir sur le Languedoc et le Roussillon en raison d'entrées maritimes. Et puis la Corse risque de voir passer des ondées. À noter le vent de secteur nord-est assez sensible entre la Corse et le continent. Les températures cet après-midi seront comprises entre 13 et 15 degrés dans le triangle Lille-Paris-Nancy. Le maximum sera de 23 pour Ajaccio et pour Marseille, en passant par 20 degrés en moyenne au sud de la Garonne et 17 à 19 de la Bretagne aux régions centrales. Demain, la perturbation qui pointe aujourd'hui par la Bretagne va traverser le pays en épargnant les régions méditerranéennes. Ailleurs, le ciel sera mitigé, tantôt ensoleillé, mais parfois plus menaçant.
Jean-Michel Golinski de Météo France.